Le journal Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. Objectif atteint en mai pour la vaccination. Emmanuel Macron annonce sur Twitter que 20 millions de Français ont reçu une première dose de vaccin. Prochaine étape, 30 millions de primo-vaccinés au 15 juin. À Gaza, l'armée israélienne pulvérise les locaux des médias internationaux. Washington rappelle à Israël que garantir la sécurité des médias est capital. À Paris, la manifestation pro-palestinienne interdite a donné lieu à des tensions avec les forces de l'ordre et des affrontements en ce moment lors de la dispersion. Delphine Evenou dans un instant. Dans ce journal également, garde à vue prolongée pour le tueur présumé des Cévennes et notre rendez-vous du samedi 19h avec Christine Siméon et Ma Vie Connectée, consacré ce soir à une plateforme numérique pour apprendre la magie. La météo pour demain, des orages au nord, de la pluie au sud, Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Plusieurs manifestations pro-palestiniennes. Aujourd'hui en France, la plupart des défilés se sont déroulés dans le calme. À Paris, où la manifestation était interdite, les organisateurs ont maintenu leur appel à manifester. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser les rassemblements. Face à face, parfois tendu cet après-midi, avec des heurts ce soir dans le quartier de Barbès. Le reportage de Delphine Evenou.
Des dizaines de camions de CRS, des escadrons de policiers à moto, le cortège informel est très encadré, quelques centaines de personnes.
En fait, ça fait mal au cœur de voir des enfants et des gens tués de cette façon. C'est le minimum qu'on peut le faire pour eux.
Les slogans fusent. Hostile à Israël, à un État, précise Thomas, scandalisé des accusations d'antisémitisme entendues dans la bouche du ministre de l'Intérieur.
Moi, Israël, c'est un pays que je ne cautionne pas, d'accord ? C'est un pays qui a volé une terre. Nous, on n'est pas là pour justement de dire mort aux juifs. Non, nous, justement, on est là pour justement de dire les sionistes, c'est eux qui font n'importe quoi. Et nous, moi, je suis anti-sioniste, mais pas antisémite.
Au bout d'un quart d'heure, le canon à eau entre en service. Les manifestants n'auront parcouru que quelques dizaines de mètres. Le cortège se disperse en petits groupes dans une rue adjacente. Point levé, pancarte en main, très calme, Maëva, 19 ans.
C'est pas un conflit israélo-palestinien, c'est vraiment les Palestiniens qui sont persécutés. Et il faut en parler. Et le fait que la manifestation soit interdite, c'est un signe de plus qu'il faut prendre la parole ou au moins manifester et montrer notre engagement.
Un peu plus loin, face aux policiers de la brave moto, Samir, algérien, les interpelle.
Je suis arrivé en France, j'avais l'impression d'être accueilli par un pays de droits de l'homme. Et en fin de compte, regardez l'image que j'ai. Mais je ne comprends pas pourquoi les autorités françaises, pourquoi le préfet allemand ne nous a pas autorisé cette manifestation.
Une interdiction qui a aussi nourri la frustration et des discours complotistes.
Reportage de Delphine Evenou avec Raymond Albouy. Et ce soir, on apprend que 44 personnes ont été interpellées à Paris en marge de cette manifestation pro-palestinienne. Pendant ce temps, au Proche-Orient, il n'est pas question de trêve pour l'instant. Et à Gaza, le conflit risque de se dérouler maintenant à huis clos. L'armée israélienne a pulvérisé la tour de 13 étages qui abritait les locaux des médias internationaux et notamment la chaîne de télévision Al Jazeera et l'agence de presse américaine Associated Press. En direct de Ramallah en Cisjordanie, on retrouve notre correspondante Alice Foussard. Bonsoir Alice, l'agence AP s'est dite choquée et horrifiée et Al Jazeera dénonce une volonté de museler les médias, Alice.
Oui, les images étaient terrifiantes. On les a regardées en direct, c'est d'une précision effrayante. Un missile, de la fumée, puis la tour qui s'écroule, ne laissant que des débris. L'armée israélienne avait prévenu une heure avant les habitants, les journalistes, car c'est du haut de cette tour que la plupart des images de Gaza que l'on voit depuis le début de la semaine ont été tournées. Certains précisaient qu'ils avaient dû descendre en courant dans les dizaines d'étages. Vous l'avez dit, pas de cessez-le-feu, en vue. Un communiqué des brigades Al-Qassem, la branche armée du Hamas, publié cet après-midi, a précisé que Tel Aviv devait se tenir prêt pour leur réponse. En tout cas, 63 quartiers généraux du gouvernement et des installations publiques ont été détruits par les frappes israéliennes à Gaza. Et puis aussi, il faut préciser les centaines d'appartements des familles. Du côté de la Cisjordanie occupée, pour le jour de la Nakba, qui est la commémoration de l'expulsion forcée de 750 000 Palestiniens en 1948, les manifestations ont dégénéré aussi. Et ce n'est encore que le début de la soirée, mais on compte déjà 78 blessés, 4 dont le pronostic vital est engagé. Au checkpoint de Ramallah, où l'on était cet après-midi, les ambulances manquent. Ce sont des taxis collectifs, ces camionnettes jaunes qui les emmènent à l'hôpital. Ici, l'armée tire à balles réelles contre les chebabs, ces jeunes qui lancent des pierres et des feux d'artifice.
Alice Roussard, en direct de Ramallah, merci. Washington demande donc à Israël d'assurer la sécurité des médias. Un émissaire du département d'État américain entamera ce soir à Jérusalem des pourparlers avec les dirigeants israéliens, puis en Cisjordanie avec les responsables palestiniens. La France, de son côté, avec la Jordanie et l'Égypte, tente de mettre en place une médiation. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, joint cet après-midi par Éric Bégala.
Je compte beaucoup sur la médiation égyptienne, parce que les Égyptiens sont un peu les seuls qui parlent à tout le monde, avec les Israéliens depuis longtemps. Ils parlent avec la haute autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, mais ils parlent aussi avec le Hamas. Le président Sisi sera à Paris lundi matin, donc cela permettra sûrement des échanges entre le président Macron et lui-même. Nous sommes dans un groupe d'action commune entre les Allemands, les Égyptiens, les Jordaniens et nous-mêmes, pour sans arrêt essayer de faire renouer les fils du dialogue. Et il y aura un Conseil de sécurité des Nations Unies demain, qui, je l'espère, pourra parler d'une seule voix. Parce que s'il parlait d'une seule voix, ça mettrait pression sur les uns et sur les autres pour que la trêve puisse se mettre en œuvre et qu'on évite de nouvelles morts, de nouvelles victimes, parce qu'autrement l'atmosphère risque de devenir dramatique.
Jean-Yves Le Drian avec Éric Bégala, garde à vue prolongée pour le tueur présumé des Cévennes. L'audition de Valentin Marcone a débuté aujourd'hui. Le meurtrier présumé s'exprime de manière cohérente. Il n'a pas souhaité être assisté par un avocat, selon le procureur de Nîmes. Valentin Marcone s'est rendu hier soir aux gendarmes. Il a passé 4 jours dans les bois après le double meurtre de son patron et de l'un de ses collègues dans la Syrie où il travaillait, dans le village des Plantiers dans le Gard. Bernard Mounier, le maire des Plantiers, se dit soulagé de la fin de cette chasse à l'homme, mais il faudra du temps pour que les plaies cicatrisent.
Il y a 3 familles brisées dans le deuil et aujourd'hui notre rôle n'est pas terminé. On est soulagé parce que la grande partie de la population est sortie de la sphère de la peur, mais on est en charge de l'accompagnement de ces familles qui sont dans le deuil et dans la souffrance, et les plaies restent encore ouvertes. La cicatrisation viendra, c'est une certitude, mais les pansements vont se réduire au fur et à mesure du temps pour que la cicatrice finisse par disparaître, et donc il faut intégrer le paramètre du temps et de la durée.
Bernard Mounier, le maire des Plantiers, avec Bernard Thomasson. 20 millions de Français ont reçu une première dose de vaccin, annonce sur Twitter cet après-midi d'Emmanuel Macron. L'objectif fixé pour le 15 mai a donc été atteint et l'objectif suivant, a indiqué le Premier ministre Jean Castex, c'est 30 millions de primo-vaccinés sans distinction d'âge au 15 juin, à 4 jours de la réouverture des commerces, des lieux culturels et des restaurants. La situation sanitaire s'améliore, la pression de l'épidémie diminue et c'est aussi une source de satisfaction pour le secteur du tourisme. Jean-Pierre Mas, président de l'organisation Les Entreprises du Voyage, estime que la France va vite retrouver son attractivité.
Très clairement, il y a une bataille des pays européens pour garder leurs nationaux sur leur territoire et la France est un très bon exemple. Et pour aller chercher les clients sur les marchés voisins, ça c'est très clair. Ceci étant, c'était déjà le cas avant le Covid et la France était leader en matière touristique. Les voyageurs qui viennent d'Europe sont dispensés de quarantaine et n'ont à fournir qu'un test PCR négatif datant de moins de 72 heures. Donc la France va retrouver son attractivité qu'elle avait clairement perdue parce que les restaurants, les cafés, les musées, les parcs d'attractions étaient fermés. Tout cela va réouvrir et la France retrouvera son attractivité au cours de l'été.
Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage avec Augustin, arrivé ce soir. La pression hospitalière continue de baisser. Une annonce de Santé publique France. 4271 patients sont hospitalisés en réanimation contre plus de 4350 hier. Et puis, pour y voir plus clair concernant l'objectif atteint des 20 millions de premières injections, vous trouverez sur notre site franceinter.fr l'âge, la répartition géographique et le type de vaccin utilisé en 4 graphiques franceinter.fr. À l'étranger, au Chili, 15 millions d'électeurs votent aujourd'hui pour élire leur assemblée constituante et désigner les rédacteurs de la nouvelle constitution. Cette constitution remplacera celle qui avait été rédigée sous le régime militaire d'Augusto Pinochet et cette nouvelle assemblée sera totalement paritaire grâce à la forte mobilisation des féministes au Chili. Sur place à Santiago, Justine Fontaine.
Quand le gouvernement et le Congrès ont accepté, fin 2019, l'idée d'organiser un référendum puis l'élection d'une assemblée constituante, rien n'était prévu pour garantir que davantage de femmes soient élues. Alors des militantes féministes et des politologues, comme Julieta Suárez-Cao, se sont mobilisées.
Notre première réaction était de dire si on garde les mêmes règles électorales alors que les habitants n'ont pas confiance dans le Parlement actuel, on va se retrouver face aux mêmes problèmes. Il fallait donc faire en sorte que l'assemblée constituante soit plus inclusive, c'est-à-dire avec 50% de femmes et des sièges pour les peuples indigènes, pour que les gens la considèrent comme légitime.
Grâce à la parité, les féministes espèrent être nombreuses dans la future assemblée constituante, comme Alondra Carrillo, candidate en banlieue de Santiago. Elle souhaite notamment défendre le droit à l'avortement, aujourd'hui autorisé seulement en cas de viol, de danger pour la vie de la personne enceinte ou si le fœtus n'est pas viable.
Une des dernières réformes imposées en 1989, juste avant la fin de la dictature, a été de protéger dans la Constitution la vie de l'enfant à naître, ce qui limite la possibilité de légaliser le droit à l'avortement libre, sûr et gratuit.
Les féministes comptent s'exprimer sur tous les sujets, mais savent aussi que rien n'est encore gagné, car au sein de l'Assemblée constituante, les décisions seront prises à une majorité des 2/3 des voix. Santiago, Justine Fontaine, France Inter.
Notre rendez-vous du samedi 19h avec Christine Siméone et Ma Vie Connectée. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
Et cette semaine, vous avez fureté sur une plateforme numérique un peu spéciale pour apprendre à faire des tours de magie.
Oui, Frédéric. J'ai consulté Double Fond TV. Vous connaissez ces jeux de cartes où on fait choisir une carte et puis vous seul la connaissez, alors on mélange et hop, le magicien la retrouve. Eh bien, j'ai appris par exemple comment les magiciens font semblant de mélanger les cartes. J'ai suivi pour cela les explications d'Alexandra Duvivier, magicienne. Attention, voici la première partie du tour de la triple coupe.
Alors, comment ça fonctionne? Donc, on va le faire avec deux cartes simples à se souvenir, avec par exemple l'as de cœur, l'as de carreau. Très bien. Et tu remarques que là, l'index, hop, expansion. Cette partie supérieure que tu viens de couper est réceptionnée avec la fourche de la main gauche entre pouce et index.
Toute l'astuce est de ne pas montrer que l'on coupe et que l'on garde cette coupe devant soi sans que les spectateurs ne le voient. Attention, voici la dernière partie de la manipulation.
Cette partie inférieure est remise dessus et maintenant tu n'as plus qu'à couper au break. Tu soulèves la partie supérieure, tu la poses sur la table, peu importe si ça fait ça. Tu prends la partie qui te reste et maintenant l'ordre est comme au début.
Évidemment, il vaut mieux le voir pour comprendre, mais pour le voir, il faut être abonné à cette plateforme Double Fond TV.
Alors la magie était redevenue très tendance depuis plusieurs années, mais cette année, faute de spectacle dans leur théâtre du Double Fond à Paris, Alexandre Duvivier et son père Dominique ont lancé cette plateforme qui fonctionne sur abonnement, Christine.
Oui, c'est vrai, la plateforme Double Fond TV donne accès à des tutoriels ou à des vidéos enregistrées lors de cours dispensés dans le théâtre du Double Fond à Paris. Philippe Depertuis, mentaliste et intervenant, nous en dit plus.
C'est pas une plateforme de spectacle, c'est une plateforme qui est destinée à tous ceux qui ont envie d'apprendre. Alors, comme il y a plusieurs niveaux, quand on débute complètement la magie, on a besoin d'avoir des tours qui vont marcher très vite, qui vont pas nécessiter beaucoup d'entraînement, parce qu'on a besoin de voir déjà l'effet que ça nous fait à nous de faire un tour, et puis l'effet que ça fait quand on le fait.
Alors, à supposer que l'on ait vu les 350 vidéos qui sont sur la plateforme, on n'en retire pas un diplôme de professionnel, mais tout de même, on aura passé de nombreuses heures d'évasion. Et je peux vous dire maintenant, la vraie magie, c'est que même en ayant compris les trucs, les manipulations, on reste quand même ébloui par la dextérité des magiciens et des magiciennes.
Christine Siméon et Ma Vie Connectée, l'engouement pour la magie à retrouver sur franceinter.fr. Un dernier mot de sport et cette qualification de Novak Djokovic pour les demi-finales du Masters 1000 de Rome. Le numéro 1 mondial a réussi à renverser Tsitsipas en 3-7, 4-6, 7-5 et 7-5. Le temps pour demain.
La météo avec Air France Protect. Réservez avec la plus grande flexibilité et voyagez en toute sérénité sur l'ensemble des vols Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
Demain, tout comme aujourd'hui, l'ambiance la plus sèche et quelques vents ensoleillés sera pour la Corse et les bords de la Méditerranée, mais avec un vent d'ouest très turbulent. Sur le reste du pays, la journée sera à nouveau arrosée par des pluies continues au sud d'un axe Bordeaux-Mâcon, des pluies assez fortes dans le quart sud-ouest et sur les Alpes, avec une tramontane assez forte et du vent vers 100 km/h sur les crêtes pyrénéennes et alpines, ainsi que de la neige en altitude sur les Alpes. Sur une large moitié nord, là c'est un régime d'averse. Ceux qui vont occuper le terrain toute la journée. Elles seront généralement espacées du Poitou-Charentes en allant vers le centre et la frontière allemande, mais beaucoup plus fréquentes et souvent orageuses du nord de la Loire à la Belgique, avec un vent d'ouest assez fort des côtes vendéennes au Finistère ainsi que près de la Manche et du Morvan aux Vosges, dans des températures légèrement plus douces qu'aujourd'hui entre Rhône-Alpes et le Grand Est, mais stationnaires sur les autres régions.
Jean-Michel Golinski de Météo France.